En 2010, j'ai perdu ma mère au tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti. C'était la catastrophe, vraiment la catastrophe. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je pense qu'elle aurait eu 67 ans. C'était, oui, un sentiment d'impuissance de façon exponentielle. C'était un choc parce que j'étais tellement naïve que je pensais que une église ne devrait pas s'effondrer. Donc, c'était à ce point que j'étais naïve où je peux dire que je connaissais mal Dieu. Parce que pour moi, Dieu, c'était la religion. Donc, pendant 3 ans, je n'ai rien voulu savoir de l'église, de la religion, les prêtres, tout ça, parce que c'était une confusion totale dans mon esprit.
Bienvenue au 9e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme, j'adore faire parler les autres et ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. J'ai le bonheur aujourd'hui d'une conversation avec Doris Jean-Baptiste, 47 ans. Doris est née à Port-au-Prince, en Haïti. Elle y a fait des études chez les sœurs, puis en gestion à l'université. Inquiète de la montée de l'insécurité et de la violence, elle immigrait au Québec avec son conjoint en 2002, mais ses parents restent derrière. En janvier 2010, un puissant tremblement de terre détruit l'église où se trouvait sa mère. Elle ne fut jamais retrouvée. La foi de Doris s'est elle aussi effondrée ce jour-là. Au fil de l'entrevue, Doris me raconte son enfance dans un quartier où tout le monde se connaissait, son bonheur d'avoir deux filles alors qu'elle se croyait infertile, et ses premières années comme immigrante et jeune maman dans la région de Montréal. Elle me confie ce qui l'a ramenée dans la foi catholique après un deuil douloureux. Elle partage sa démarche artistique et me parle de son engagement pour la guérison des autres. Merci de partager ce moment avec nous. J'accueille aujourd'hui au micro de la quarantaine Doris Jean-Baptiste. Bonjour Doris.
Bonjour Brigitte.
Quel âge as-tu?
J'ai 47 ans.
OK, parfait. On a 3 ans pour finir l'entrevue. Ça devrait aller, je pense qu'on est correct. J'aimerais commencer l'entrevue en te posant la question de ton quotidien. Décris-moi un peu. À quoi ressemble ta vie au jour le jour, du matin au soir?
Au jour le jour, lorsque je me réveille, je prie. Ensuite, je fais un petit peu de recherche par rapport à mes projets de création. Et je descends au sous-sol pour commencer à travailler. Et je termine à 15h30 la plupart du temps. Et par la suite, je prépare un peu à manger si j'ai à cuisiner ou sinon. Je sors pour marcher un peu, au moins 30 minutes par jour. Et lorsque je retourne le soir, je me branche sur des émissions de prière ou des rencontres avec mon groupe de prière. Et aussi, si j'ai des choses à créer, je les crée. Mais la plupart du temps, je crée avant qu'il ne fasse nuit, pour profiter de la lumière du soleil.
Les
Donc,
hivers
en gros,
doivent
c'est
être
ça.
longs.
Oui. Oui, donc, c'est ce à quoi ressemble mon quotidien, sauf les dimanches où je me réveille tôt pour me rendre à l'église parce que parfois, je suis responsable de la lecture.
Dis-moi un peu plus sur ton travail de création.
Je fais de la peinture sur toile, sur tissu, sur verre. J'expérimente un peu l'aquarelle, peinture sur bois. Récemment, j'ai commencé à créer des bijoux, des sautoirs, des boucles d'oreilles. Donc, j'aime beaucoup explorer.
Est-ce que les gens ne voient pas, mais tu as de très belles boucles d'oreilles modernes avec beaucoup de couleurs. Est-ce que c'est toi qui les as?
Non,
Ah,
je
zut.
les ai achetés d'une amie qui est aussi artisane.
Ah, wow. Mais elles sont très
Oui,
jolies. Alors,
merci.
j'irai voir après celles que tu fais toi-même.
Oui.
Veux-tu m'en dire juste un mot ou deux sur ton travail?
Mon travail de création.
Ah, ton travail de jour.
Mon travail de jour.
Celui que tu fais dans le sous-sol.
OK, celui que je fais dans le sous-sol. Bon, je suis fonctionnaire. Je travaille dans ce département qui s'occupe de la rémunération. Donc, c'est ça. Ça bouge beaucoup.
Wow. Pour un gouvernement, le gouvernement provincial, oui. Genre. Oui, oui.
Oui. Okay. Non, pour le gouvernement fédéral.
C'est oui. Moins coloré que le travail de peinture, j'en suis convaincue.
Oui.
Et tu vis toute seule?
Non, je vis avec ma famille. J'ai deux filles et mon mari aussi, il est là.
Ah, wow, OK. Et est-ce que tes enfants sont en âge scolaire encore, ont besoin de beaucoup d'attention, plutôt indépendantes à cet âge-ci?
Elles sont indépendantes. L'aînée a 19 ans et la plus jeune en a 16.
Ah, wow, OK. Ça donne une autre dynamique. Moi, mes enfants sont un peu plus petits, 7 ans et 10 ans, alors ils ont oui. Encore, ils font encore une grande partie de mon quotidien. Et incluant la nuit à l'occasion, même à cet âge-là. Ben, merci pour cette introduction-là. J'aimerais qu'on revienne maintenant en arrière, qu'on prenne une vision un peu plus vaste pour parler de tes origines. Décris-moi un oui. peu d'où tu viens, parle-moi même de ton enfance. On reviendra après à qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cette identité-là, mais parle-moi de tes origines.
OK. Donc, je suis d'origine haïtienne. Je suis née à Port-au-Prince, un 25 juillet 1975. Et j'ai fréquenté une école congréganiste, donc du primaire au secondaire. Et ensuite, j'ai obtenu mon bac à l'université Quisqueya, à Port-au-Prince, dont j'ai obtenu l'équivalence ici au Québec. Et mes sœurs vivent ici au Québec et mon frère vit aux États-Unis. Et donc, j'ai vécu avec mes deux parents tout le long.
Oui, OK. Qu'est-ce que c'était l'école primaire puis la petite enfance? Pour toi, quel souvenir en gardes-tu?
J'ai beaucoup aimé mon expérience à l'école, que ce soit à l'école primaire, secondaire. De toute façon, c'était la seule école que j'ai fréquentée, primaire, secondaire. Donc, les deux programmes se retrouvaient à l'intérieur de la même institution. Et donc, j'ai vraiment aimé mon expérience parce que j'aimais l'école. Même si les sœurs étaient très, très, très sévères. Donc, avec beaucoup de discipline. Et puis, nous avons reçu une éducation religieuse aussi, dans la même école, mes sœurs et moi, parce qu'on a fréquenté la même école. Et donc, en gros, c'était ça. Donc, il n'y avait pas d'événement particulier à souligner pendant mon parcours académique. Donc, j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que parfois, on se plaignait à la maison par rapport à certaines... je pourrais dire certains consignes, mais je pense que j'ai aimé ça en gros, oui.
Est-ce que ça allait de soi d'aller à l'école des sœurs ou est-ce qu'il y avait comme d'autres options qui auraient fait que ta vie aurait été différente à l'époque?
Je ne pense pas qu'il n'y avait pas d'autres options parce que à l'époque, j'espère que ça l'est encore, les écoles congréganistes, c'était les écoles recommandées parce que, à cause de la discipline, de la qualité de l'éducation, donc elles étaient les plus recommandées. Bon, j'ose le dire.
C'était oui. le meilleur choix possible.
Oui, je pense que c'était le meilleur. Oui, je pense que c'était le meilleur choix. Mais je n'ai pas regretté non plus.
Ça s'est pas trop mal passé jusqu'à présent.
Oui, ça s'est bien passé.
Je suis pas très familière avec le système d'éducation en Haïti. Est-ce que ça suit en gros un curriculum similaire, par exemple, au système français?
Est-ce que je ne sais pas trop de quoi a l'air le système français, mais je pense que ça devrait ressembler à ça. On commence le primaire. Alors, à l'époque, la première année du primaire, ça s'appelait 12e. Et la dernière année, c'était la 7e. On obtenait un certificat de fin d'études primaires. Ensuite, la première année du secondaire à l'époque, ça se nommait 6e. Et la dernière année, c'était la classe de philo.
Ah oui, OK. Donc, pas
Oui.
trop, pas dissimilaire, en tout cas, du système.
Oui.
Probablement beaucoup inspiré du système français, en tout cas.
Oui, je le pense, je le pense.
Est-ce que les enseignantes, c'était des Haïtiennes?
Oui, je peux dire à 98%,
Ah
oui,
oui,
des
OK.
Haïtiens.
Super.
Et j'avais quelques profs qui étaient des Canadiennes, je pense, et une ou deux Françaises. Oui, les chercheurs étaient des étrangères.
Oh, OK.
Oui, la plupart d'entre elles.
OK.
La plupart d'entre elles, oui. Je peux dire, oui. Mais
OK.
la directrice à l'époque, c'était. Non. Mais pour le primaire, mais je ne me rappelle pas trop pour le primaire, mais pour le secondaire, j'ai eu une Haïtienne comme directrice. Oui.
Tu as vu je ne vendrai pas le punch, mais tu es au Québec depuis 2002, donc je calcule vite, vite que tes filles ont grandi ici.
Oui, elles sont nées ici.
Ouais, ça fait un bon bout de temps maintenant que tu es au Québec. Peux-tu me parler, peut-être en contraste, qu'est-ce que ça voulait dire de différent de grandir en Haïti, à Port-au-Prince, dans ton enfance, comparativement peut-être à ce que tu imagines aurait été une enfance comparable au Québec ou même l'enfance de tes filles.
Ok, si je fais une comparaison rapidement, je peux dire que en Haïti, je peux dire qu'on vit un peu en communauté. Je vais m'expliquer. Ça veut dire que nous sommes proches des voisins. Ok. Si je sortais et que le voisin ou la voisine me voyait à l'extérieur, c'est sûr que tout le quartier où mes parents devraient être au courant parce que nous sommes vraiment proches. À comparer à ici où on ne connaît pas vraiment nos voisins, donc les gens sont un petit peu plus renfermés sur eux-mêmes. Donc c'est ça. Donc on a l'impression que vivre en Haïti en tant qu'enfant, on a l'impression de vivre dans une grande cour où il y a des maisons tout autour. Mais on dit souvent, on dit que le pays est petit, mais c'est vrai que le pays est petit. Tout le monde se connaît.
Ou sinon, tout le monde a un beau-frère en commun ou quelque chose, un cousin ou...
Voilà. Oui, effectivement. Donc, c'est ça.
Est-ce que tu as l'impression... Ah, j'y reviendrai, mais as-tu l'impression qu'il y a des différences de valeurs ou de culture qui ont fait contraste pour toi?
Oui, lorsque je suis arrivée au Québec, du point de vue religieux, j'ai un peu perdu certains repères parce que, je vais donner un exemple. Par exemple, en Haïti, il y a la fête Dieu, c'est une journée fériée. Il y a la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est une journée fériée. Tandis que ici, il n'y a pas de férié pour ces fêtes religieuses. Donc, ces journées en Haïti où ce sont des journées fériées, donc automatiquement, il fallait aller à l'église. Je dis bien, il fallait. C'est comme si on n'avait pas le choix. Il fallait aller à l'église. Tandis que ici, dès que je suis arrivée, je n'ai pas senti que certaines journées où il fallait rester à la maison, se recueillir, aller à l'église, c'était une journée de travail comme les autres journées. Donc, oui, ça m'avait vraiment. Mais je ne peux pas dire choqué, mais un peu, ça avait attiré mon attention.
Oui, c'est la fête Dieu, moi, c'est quelque chose qui était célébré par ma famille. Moi, j'ai une famille qui était pas mal catholique quand j'étais enfant. Mais la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, ça, c'est une nouvelle pour moi. Qu'est-ce que c'est?
Mais c'est parce que elle est la patronne d'Haïti, parce que,
Ah!
oui, c'est ça, parce qu'elle est la patronne d'Haïti. Mais ça, c'est juste un exemple. Mais il y a d'autres fêtes aussi où le pays, je peux dire que le pays est complètement fermé. Oui. Donc, il n'y a pas
Donc, comme
d'activité.
Noël, là.
Donc, oui, comme Noël. Mais je me rappelle Fête Dieu, mais je pense qu'à l'Ascension, c'est peut-être une journée fériée, l'Assomption aussi. Je ne sais pas s'ils ont changé les journées, mais en tout cas, de mon temps, c'était des journées fériées.
C'est drôle, dans le calendrier dit laïque, tu sais, il y a beaucoup de nos fêtes qui sont techniquement des fêtes laïques, civiles, là, où on a des journées fériées, mais qui ont une origine étrangement religieuse, qui se
Voilà, voilà.
superposent souvent, hein, fait que peut-être qu'ils ont changé les noms, mais ça
Oui.
demeure un peu un historique religieux. Qu'est-ce
Oui.
qui reste aujourd'hui de Doris, la petite fille qui a grandi à Port-au-Prince dans la rue avec ses amis, dans ta vie d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des aspects de cette identité-là,
Mais
de la façon dont tu as grandi?
je suis toujours restée la Doris curieuse. J'aime un peu l'aventure, j'aime questionner. Je m'intéresse à beaucoup de sujets, sauf la politique. Ça, c'est, je pense que justement, c'est un traumatisme par rapport à ce que j'ai vécu en Haïti. Donc, jusqu'à présent, la politique, je n'y m'intéresse pas trop. Je vais m'informer par rapport à ce qui se passe, disons, une fois de temps en temps, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Donc ça n'a pas changé. Donc la politique, bon, non, je ne vais pas trop opiner non plus là-dessus.
Est-ce que
Oui.
ce serait une caricature que de dire que la politique, c'est un peu un sport national en Haïti? Est-ce que c'est une...
En effet, en effet. Oui, en effet.
OK.
Ouais.
Mais c'est pas quelque chose qui te manque, que tu voudrais avoir
Non.
davantage présent dans ta vie?
Non, pas du tout. Pas du tout.
OK.
Non.
Ouais, je
Non.
pense que... Je peux comprendre
Oui.
à plusieurs égards. Ben donc, parlons un peu de transition et de choix et de moments charnières. De toute évidence, t'es plus en Haïti. Tu es déménagé au Québec en 2002, c'est ça?
Oui, en février, en plein hiver.
Oh, aïe, aïe. Donc, parle-moi un peu de ton cheminement, de ce qui t'est arrivé entre... En gros, la fin de l'enfance peut-être, et aujourd'hui, quels sont les grands choix et les grands moments charnières? Il y en a des petits probablement aussi, mais qui sont importants, qui te sont arrivés et qui définissent ta vie d'aujourd'hui.
OK. Après mon mariage en 1997, je me suis mariée à l'âge de 22 ans. J'ai vécu une période d'infertilité de près de 5 ans. Donc, ce n'est qu'arrivé au Québec en février 2002 que je me suis rendue compte que j'étais enceinte. Ça, c'était extraordinaire.
C'est un
Oui.
hasard complet.
Non, c'était pas un hasard, mais je ne m'y attendais pas parce que je savais que j'étais infertile. J'avais été opérée un an avant de l'endométriose, stade 3 ou 4. Donc, le médecin ne savait pas trop si j'allais tomber enceinte, mais c'est arrivé et j'étais
Wow.
vraiment contente. Oui.
Ah, oh, super.
Oui. Et.
Et donc, mais est-ce qu'on peut reculer pour un moment? Donc, tu te maries en 97. Comment décides-tu de déménager, de quitter Haïti et de déménager au Québec?
Oui, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'insécurité, des vols de véhicules, le kidnapping venait tout juste de commencer. dans le pays. Donc, on vivait dans la peur, je ne pouvais plus sortir. Donc, j'ai décidé de quitter. Donc, j'ai appliqué pour la résidence canadienne et j'étais à la fin de mes études universitaires. Donc, ça tombait bien puisqu'on me demandait d'avoir un diplôme universitaire pour pouvoir appliquer. Donc, j'ai sauté sur l'occasion.
Est-ce que ça allait de soi, le choix du Canada, du Québec, ou il y avait d'autres options?
Mais j'avais pensé aux États-Unis, mais lorsque je comparais le délai de traitement, je trouvais que le Canada était une meilleure option parce que c'était plus court et c'était beaucoup plus compliqué pour les États-Unis. D'autant plus que j'avais aussi de la famille ici au Québec. Et puis, donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais peu importe, là, de toute façon, dans mon cœur, je savais que j'allais pouvoir m'adapter.
Est-ce que tu pensais que ce serait pour toujours? Est-ce que c'était un déménagement
Oui.
temporaire ou...
Non, définitif. Je savais que c'était définitif.
C'est difficile à dire. Ben, je dis ça, moi je suis déménagée de Montréal à Vancouver, ça fait quelques années. Je pensais que ce serait temporaire pour 3-4 ans. Finalement, j'y suis, ça fait 17 ans. Mais bon, c'est le même pays, c'est très semblable. J'ai de la difficulté à m'imaginer faire ce saut-là en février en plus. mais es-tu capable de te rappeler comment tu te sentais à ce moment-là? C'est quoi l'émotion qui vient avec cette décision-là de déménager? C'est quoi les choses auxquelles on pense? Qu'est-ce qu'on espère? De quoi on s'inquiète? Qu'est-ce qui te passait par la tête?
Mais avant tout, j'étais vraiment heureuse et j'avais vraiment hâte de déménager parce que, comme je l'ai dit tantôt, le pays était invivable déjà en 1900, en 2002. C'était invivable. Et aussi, je m'étais dit que, bon, si je ne tombais pas enceinte, peut-être que ce serait aussi une opportunité pour moi de faire d'autres démarches, arriver au Canada. Donc, c'était une autre motivation, mais je pense que c'était une motivation, mais secondaire, parce que j'avoue qu'il y a de bons médecins en Haïti aussi. Donc, oui, j'étais prête mentalement et j'étais vraiment heureuse. Lorsque j'ai obtenu la résidence, j'étais vraiment heureuse.
Est-ce qu'il y a des trucs qui te surlupinaient, qui, sans t'empêcher de partir, mais qui t'auraient retenu juste un peu, ne serait-ce que mentalement, soit la famille ou le climat ou autre chose?
Qui me retenait, utiliser le mot retenir, c'est un peu fort parce que je savais que malgré tout, j'allais quand même quitter, mais je savais que le climat d'Haïti allait me manquer. Ça, c'est certain. Le climat allait me manquer. Et ça me manque encore, c'est sûr, mais. Je n'y peux rien.
Non, c'est sûr. Le Québec étant ce qu'il est, au moins il y a l'avantage des extrêmes. Hein. Il fait
Oui.
très chaud en été et de plus en
Oui.
plus peut-être. Alors ça compense. Et parle-moi un peu de tes choix d'études. Quel domaine as-tu choisi d'étudier? Puis où est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce qui est arrivé après?
Mais j'ai étudié en administration en Haïti. Cependant, j'ai toujours voulu être architecte parce que j'ai beaucoup d'aptitudes pour le dessin. J'ai beaucoup aimé la géométrie, des cours de dessin. J'étais bonne en mathématiques. Et au moment de faire mon choix, ben, mes parents m'ont conseillé de ne pas trop m'aventurer là-dedans parce que mes parents eux-mêmes, ils n'étaient pas ingénieurs. Donc, on sait qu'en Haïti, certaines professions s'exercent, je peux dire, de génération en génération, ça se transmet. Donc, j'ai écouté mes parents, j'ai dit, OK, bon, de toute façon, j'aime les chiffres, j'aime le commerce, l'administration, je n'aurais pas de problème. Donc, c'était mon plan B. Donc, je me suis inscrite en administration des affaires. Mais en Haïti, à l'époque, c'était la gestion des PME. Mais j'ai obtenu une équivalence au Québec en administration des affaires. Mais le titre en Haïti, c'était gestion des PME.
Et je crois comprendre, mais tu l'as dit déjà que tu t'intéressais aussi aux arts visuels. Mais tu viens de dire
Oui,
aussi que tu aimais dessiner,
oui, oui,
donc.
oui, 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 oui. Mais c'était vraiment, je voulais vraiment être architecte. Oui.
Okay. Mais bon, tu as choisi l'administration des affaires. C'est un choix. Aussi, je ne veux pas dire rationnel parce qu'il y a toutes sortes de façons de définir la rationalité, mais c'est un choix sage ou conservateur,
Mais
peut-être,
oui,
comparativement à choisir des.
conservateur. Oui, conservateur.
On prend pas de chance.
On prend pas de chance, voilà. Oui.
OK. Ouais, je me demande d'ailleurs en matière d'immigration comment un bac en art visuel ou quelque chose comme ça aurait été reçu.
Bon, c'est sûr que premièrement en Haïti, même si je voulais être artiste, c'est difficile. Il y a certains domaines en Haïti où on ne peut pas s'aventurer parce qu'on ne sait pas est-ce que on ne sait pas si on pourra travailler avec. Donc, c'est pas comme ici au Québec où tu peux travailler dans un musée, tu peux être prof. C'est différent. Donc, l'architecture, oui, je pense que j'aurais pu étudier en architecture, mais cependant, arrivé ici au Québec, il aurait fallu que je retourne à l'école pour pouvoir faire partie de l'ordre des ingénieurs et architectes. Donc, en quelque sorte, oui, je ne suis pas devenue architecte, mais quand je pense au fait que dès mon arrivée au Québec, que je portais déjà mon enfant, peut-être que je n'aurais même pas pu continuer. Donc, ça me console un peu.
J'ai oublié de te demander, donc tu es déménagé au Québec avec ton conjoint,
Oui.
vous étiez marié déjà à ce moment-là.
Oui.
C'est une décision que avec laquelle vous étiez de toute évidence tous les deux d'accord. Mais
Oui.
qu'est-ce que ça voulait dire de faire ce saut-là ensemble pour vous deux?
Mais c'était, je pourrais dire, un vrai départ. C'était un vrai départ parce que c'est sûr qu'en Haïti, lorsqu'on était en Haïti, je vivais chez elle, chez lui, donc chez ma belle-mère. Donc, on se sentait plus encadré. Mais venir ensemble ici, c'est comme affronter la vie vraiment d'une autre manière. Donc, c'était un nouveau départ.
C'est une grosse décision.
Oui.
C'est pas un petit transfert que vous avez fait. Et qu'est-ce qui arrive après un coup que vous atterrissez au Québec en février 2002?
Donc, oui, donc il y avait la cousine de mon mari qui nous attendait, était très gentille, elle nous a accueillis pendant 2 ou 3 semaines à Rivière-des-Prairies. Puis, entre-temps, j'ai commencé à chercher nous avons commencé à chercher un appartement, nous avons déménagé à Longueuil. Et c'est très peu de temps après avoir emménagé dans l'appartement que je me suis rendu compte que j'étais enceinte, mais je n'en croyais pas vraiment mes oreilles lorsque l'infirmière du CLSC m'a appelé pour me dire que oui, votre résultat est positif, mais j'étais tellement sous le choc que l'infirmière m'a dit, oh, mais madame, je comprends, peut-être que vous ne vouliez pas avoir ce bébé. J'ai dit non, au contraire, c'est un choc merveilleux.
C'était une belle nouvelle, c'était
C'est une
pas.
belle nouvelle, donc une belle surprise. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'étais toute excitée. Puis après, mais j'avais peur d'aller travailler parce que je me disais, oh, je ne veux pas sortir. Je veux vraiment protéger le bébé à l'intérieur de mon ventre. J'avais vraiment peur. Donc, mon mari, lui, il a travaillé, mais moi, non, j'étais restée à la maison. Et j'ai commencé à travailler après avoir accouché, peut-être que je crois 8 mois après mon accouchement. Oui.
Wow,
Oui.
c'est quand même rapide là aussi, même
Oui.
Et comment on se trouve un premier travail quand on arrive dans un autre pays avec un en plus un bébé, tout petit bébé à l'époque?
Oui, mais une chose que j'étais très proactive, dès mon arrivée, j'ai appliqué auprès du ministère pour avoir une équivalence de mon diplôme. Et donc, j'étais très déterminée à me trouver un emploi. Donc, même avant d'immigrer, j'étais déjà familière à Jobboom, les sites gouvernementaux. Donc, je faisais beaucoup de recherches. Donc, oui, j'ai trouvé un emploi à la Banque Centrale. Je dis la Banque Centrale, c'est parce que je travaillais à la Banque Centrale avant de venir ici. J'ai trouvé à la Banque Nationale à Laval.
Oh,
Oui. Donc, en
ouf.
back office, oui. J'habitais à Longueuil. Donc, c'était mon premier emploi. J'y suis restée, je pense, pendant 5 ou 6 mois. Et par la suite, je me suis trouvé un autre emploi à la banque TD au centre-ville. C'était un vrai soulagement.
Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez fait pour la garderie?
Mais on avait trouvé une garderie.
Wow.
Heureusement, oui, on avait trouvé une garderie. Donc, ça nous a dépanné.
Wow.
Oui, pas loin de chez nous, à Longueuil, oui, pas loin de chez nous.
Aïe, 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 aïe. OK. Et donc, qu'est-ce qui se produit après ça? C'est quoi les grands moments, qui viennent par la suite?
Bon, par la suite, je me suis trouvé un emploi à permanent parce que tous les autres emplois que j'ai occupés, c'était des emplois temporaires ou avec renouvelables. Et c'était à travers une agence. Donc, par la suite, j'ai pu trouver un emploi permanent. Je crois que c'était en 2006. Oui, non, c'était en 2007. En 2007. Mais en 2006, j'ai eu ma deuxième fille. Oui, j'ai eu ma deuxième fille en 2006. Et quelques mois après, j'ai commencé un emploi permanent. Toujours au centre-ville de Montréal. Donc, c'est ça. Donc, ouais.
Est-ce que dans ces années-là, je peux imaginer avec deux jeunes enfants, changer d'emploi, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, tu sais, le soir, là, quand tu finis par te coucher après une longue journée, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser cette question-là?
Ce à quoi je pensais, ok, sincèrement, étant donné que je n'aime pas cuisiner, je m'étais dit, oh mon Dieu, vraiment, j'aurais besoin d'une cuisinière. Ça me manquait beaucoup parce qu'en Haïti, on avait une femme de ménage, une cuisinière, donc, ouais, donc ça me manquait.
Comprends ça.
Oui, oui.
Et donc, est-ce que
Mais
ça manque
je
assez
n'ai.
pour se dire...
Non, au point où je devrais me dire que, ah non, là, c'était pas une bonne décision. Non, pas du tout. Non, non. Ça me manquait, c'est vrai, mais quand je pense à l'insécurité, non, 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 non.
Le mode de vie est un peu différent, là. Je pense comme tu disais, plutôt aussi les gens, s'il y a un peu plus de chacun pour soi, ou à tout le moins chacun pour sa petite famille. Hein, il y a
Oui.
moins de... Quoique, je fais des entrevues avec... J'entends toujours dans les entrevues les gens qui disent « Ah, mais moi, dans mon enfance, on courait dans la ruelle. » Puis tout ça, tu sais. Puis toutes les familles se connaissaient, mais on dirait que peut-être plus après les années 2000, c'est moins une habitude d'avoir cette intégration-là, ce genre de village-là qui s'occupe
Ah
des
non.
enfants. Est-ce que, y avait une forme de communauté à laquelle, tu as eu la chance d'appartenir quand tu es déménagé à Longueuil et tout ça? Comme sur qui vous pouviez compter, tu sais, autour de vous?
Mais je peux dire que ma soeur, ma petite soeur, elle avait immigré quelques mois avant moi parce qu'elle devrait commencer l'université. Donc, lorsqu'elle est venue vivre avec nous, donc, elle m'aidait. Oui, elle m'aidait aussi. Parfois, elle gardait ma fille en attendant que mon conjoint arrive. Donc, oui, j'avais déjà la famille du côté maternel qui vivait aussi à Longueuil et à Saint-Hubert. Puis j'avais une autre amie assez proche qui vivait sur la rive sud aussi. Donc, on s'entraidait. Oui.
Il y avait quand même ce sentiment de communauté-là, juste pas nécessairement sur la rue.
Oui, effectivement, oui.
Et quelle place prend l'art pendant cette période-là ou la création?
Pendant cette période, non, je ne pratiquais aucune forme d'art pendant cette période-là parce que les enfants étaient très jeunes, donc le focus c'était vraiment s'occuper des enfants, aller travailler, la garderie, les études une fois qu'elles ont commencé le primaire. Donc pendant cette période-là, non, je ne pratiquais pas vraiment ni l'art ni l'artisanat.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es rendu à une phase où ça prend beaucoup plus de place dans ta vie? Qu'est-ce qui t'est arrivé
Bon.
entre ces deux moments-là?
Bon. En 2010, j'ai perdu ma mère au tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti. Et pendant un certain temps, je pense que quelques mois après son départ, j'ai senti un vide en moi et la peine était tellement intense que j'ai voulu commencer à peindre. Donc, je peignais sur des t-shirts pour mes enfants, des t-shirts pour moi. Ensuite, j'ai commencé à peindre sur des toiles et depuis lors, je ne me suis jamais arrêtée. C'est sûr que j'avais un psychothérapeute, j'allais voir le psychologue, j'ai suivi mon psychologue pendant plus d'un an et je peignais aussi. Donc, c'était vraiment une béquille. Et donc, j'ai jamais quitté mon perso depuis.
C'est une thérapie.
Oui, définitivement, définitivement, définitivement.
Perdre sa mère quand on est si loin que ça, je peux juste m'imaginer mais ce que ce serait pour moi, mais je pense le sentiment d'impuissance ou de.
Oui, c'était un.
Comment ça s'est passé,
Ah
ce
non,
moment-là?
c'était la catastrophe, vraiment la catastrophe. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je pense qu'elle aurait eu 67 ans.
Oh.
C'est, oui, donc c'était, oui, un sentiment d'impuissance de façon exponentielle. De façon exponentielle. Parce que cet après-midi-ci, il y avait une coupure d'Internet, coupure de communication. Même sur Facebook, à peine si on pouvait rentrer en contact avec d'autres personnes vivant en Haïti, les cellulaires ne fonctionnaient pas. Donc, c'était le blackout.
Est-ce que ton père était toujours parmi nous à ce moment-là?
Oui, il est encore vivant. Il était en Haïti aussi. Les deux étaient en Haïti. Les deux étaient en Haïti. Donc, pendant je pense que pendant de bonnes heures, on n'avait pas eu de nouvelles pendant de très bonnes heures. Après une journée, le lendemain, je pense que mon père avait réussi à nous donner de l'information. Mais malgré tout, on s'était dit que c'était une mauvaise blague. Parce que ma mère, c'était comme une mère Teresa. Je m'étais dit que, ah, elle aimait tellement les pauvres que je me suis dit, bon, elle en a profité pour nous abandonner. Elle est allée vivre avec les pauvres. Donc, vraiment là, c'est ce à quoi je pensais.
C'est la phase du déni.
Oui,
la
le
phase
déni.
Du déni dans l'œil, oui.
Oh non, le déni, vraiment déni pendant. Je pense que j'ai été dans le déni pendant 3 ans. À chaque 25 juillet, le jour de mon anniversaire, je m'attendais à ce que le téléphone sonne parce qu'elle m'appelait très tôt le jour de mon anniversaire. Ah, après 3 ans, je me suis dit, non, je pense que ça ne peut plus être une blague. Ça ne peut plus être une blague parce que une mère ne peut pas décider d'abandonner son enfant, même si elle veut, même si elle souhaite qu'elle vive avec les pauvres. Ouais. C'est difficile de savoir que ton enfant, tes enfants vivent au Canada et tu les laisses dans
l'ignorance.
Dans l'ignorance comme ça, oui.
Mais donc, elle est disparue, là. Donc vous...
Mais elle était dans une église.
OK.
Oui, elle était dans une église et elle avait une réunion avec d'autres fidèles et le prêtre. Mais comme le prêtre, lui, il était en retard à la réunion, donc c'est la raison pour laquelle il a échappé à cette catastrophe. Et puis, les autres personnes sont presque toutes décédées. Je ne sais pas si... Peut-être qu'il y a eu d'autres survivants, mais pas beaucoup là où elle était. Peut-être une ou deux personnes, mais ils sont tous décédés.
C'est juste tellement tragique. Puis la difficulté de gérer le deuil sans cette comme conclusion-là d'être absolument
c'est
sûr.
C'est ça.
Que
effectivement.
C'est ça qui lui est arrivé.
Oui, c'était très difficile parce que, étant donné qu'elle avait la résidence permanente, donc il y a eu Interpol qui était sur les lieux pour faire la recherche des corps. Donc, on me contactait tout le temps au travail pour me demander, OK, est-ce que votre mère, elle avait une cicatrice? Est-ce qu'elle avait ci? Donc, j'étais la personne désignée pour pouvoir donner des instructions. Donc, finalement, ils n'ont jamais trouvé le corps. Donc, et en février, on a fait chanter une messe commémorative pour pouvoir clôturer, entre guillemets, le deuil. Mais non,
on
n'a jamais
arrive
pu.
Pas vraiment.
Ouais.
Okay.
Oui.
Donc, je crois comprendre que c'est vraiment un gros moment charnière
oui.
dans ta
Oui.
vie.
Oui.
Comment ça transforme ta façon de voir ta vie quand ça survient?
Ah oui, ça vraiment, il y a une grosse transformation. Premièrement, il faut dire que j'ai vécu dans une famille catholique, pratiquante, élevée par une mère plus catholique que le pape. Chez moi, le samedi soir, on ne pouvait pas sortir sans réciter le chapelet. On ne devait pas manquer la messe le dimanche. Donc, lorsque c'est arrivé, c'était un choc dans plusieurs domaines de ma vie. Premièrement, du côté spirituel. Et aussi, j'ai appris à vivre sans ma mère aussi. Ça, c'est comme devenir adulte. Vivre sans sa mère, c'est enfin devenir adulte aussi. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte combien elle avait une grande influence dans ma vie parce que même étant mariée, elle me donnait tout le temps des conseils. Ma mère, c'était le genre de personne qui m'appelait pour me dire que n'oublie pas de changer tes pneus ou de bien t'habiller parce qu'on annonce une tempête. Elle vivait en Haïti, mais elle était tout le temps sur... est-ce que c'est Radio-Canada ou je ne me rappelle plus quelle chaîne? Elle savait tout ce qui se passait ici.
Elle
m'appelait même...
bien de sa famille.
Oh oui, elle m'appelait même parfois pour me dire, n'oublie pas, demain c'est fête Dieu, il faut aller à l'église. J'ai dit, mamie... mais ici, en Haïti, on dit mamie. Je sais qu'ici au Québec, mamie, c'est pour la grand-mère. Mais en Haïti, on dit mamie. Je dis, mamie, ici, le pays n'est pas fermé. Hein? Il faut que j'aille travailler. Donc, tout ça pour dire que c'était un choc parce que j'étais tellement naïve que je pensais qu'une église ne devrait pas s'effondrer. Donc, c'était à ce point que j'étais naïve, où je peux dire que je connaissais mal Dieu. Parce que pour moi, Dieu, c'était la religion. Donc, pendant 3 ans, je n'ai rien voulu savoir de l'Église, de la religion, les prêtres, tout ça, parce que c'était une confusion totale dans mon esprit.
T'étais fâché contre
Fâchée
Dieu de devoir
contre
laisser.
Dieu, contre ma mère, je me disais que bon, tout ça, ça servait à quoi? Au moment, tu as, comme je me disais, mais tu as tellement servi, tu as donné de ton temps, parce que ma mère, elle était pédiatre. Donc, elle avait même choisi cette profession pour pouvoir s'occuper des enfants nécessiteux. Donc, oui, elle allait travailler, mais elle faisait ça, elle avait aussi une clinique qui s'occupait des enfants nécessiteux. Donc, je me disais, mais est-ce que c'est ça la récompense? Donc, mais oui, c'est ça. Pendant de 2011 jusqu'à de 2010, je disais 3 ans, non. Pendant 6 ans, je n'ai rien voulu savoir de Dieu, de la religion, du catholicisme, tout ça. Mais je voulais juste avoir une pause de tout ça, parce que je ne comprenais rien.
Est-ce que c'était plus comme de la colère ou plus comme juste un repoussement de
Mais
ou les
c'était un
deux?
mélange de beaucoup d'émotions, colère, rébellion, incompréhension. Vraiment, c'était un mélange. C'était un mélange de tout. Oui.
Comment tout ça affecte ta vie au quotidien pendant cette période-là?
Pendant cette période, bien entendu, je n'allais plus à l'église et même au moment de planifier la première communion de ma deuxième fille. J'avais dit à mon mari que non, je voulais rien savoir. C'est lui qui a insisté. Et je me suis dit, OK, mais je vais le faire, pas parce que je suis particulièrement attachée à la religion ou à Dieu, mais je vais juste le faire. Mais sinon, j'aurais laissé tomber.
Quelque chose qui, par ailleurs, avait beaucoup fait partie de ta vie jusqu'à ce moment-là.
Oui, jusqu'à ce moment-là. Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment on se sort de ça?
Bon.
C'est assez prof. J'ai comme l'impression que tu étais pas mal au fond du baril, là, pour
Oui,
toi, ouais.
oui, au fond. Et bon, entre-temps, mais mon psychologue était vraiment bon, il m'a bien accompagnée. Il s'était rendu compte qu'il fallait que je voie un prêtre pour pouvoir régler certaines choses parce que lui ne pouvait pas m'aider spirituellement. Donc, oui, j'avais été voir un prêtre et puis qui m'a parlé. On a fait une sorte de thérapie pendant peut-être 2 heures. OK. Oui, c'était un baume sur mon cœur. Mais ça n'avait pas réglé le problème jusqu'à ce qu'en 2016, j'ai vécu une expérience spirituelle extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais rencontré Dieu. Ça paraît abstrait, ça paraît... Parce que beaucoup de personnes pensent que Dieu, c'est un concept. Peut-être que quelque part, je le pensais aussi. Mais en mars 2016, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et c'est là que je me suis mise à chercher Dieu et à le découvrir et savoir qui il était. Et depuis lors, je peux dire que ma vie a pris une autre tournure. Et parfois je me dis aussi, mais pourquoi je n'avais pas fait cette rencontre avant? Mais il faut passer par certaines choses pour pouvoir guérir, mûrir et continuer à vivre aussi.
Es-tu confortable de m'en dire un peu plus sur cette expérience-là que tu as faite en 2016?
Oui, mais au fait,
Que tu as eu?
Oui, je me suis rendue à une église, c'est la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue. Mais bizarrement, mais je dis bizarrement, mais je sais très bien que le hasard n'existe pas, c'est pas bizarre, mais je le dis comme ça. Deux journées avant de me rendre à cette église, une amie, je parle à une amie qui me parle de cette église, et puis je dis, mais je voulais rien savoir. Mais arrivée chez moi, je me suis dit, mais pourquoi elle me parle de cette église? Et en plus, c'est une église que ma mère, où ma mère aimait aller le dimanche quand elle venait nous visiter au Québec. Puis je me suis dit, mais c'est bizarre. Étant donné que je suis curieuse, donc je me suis rendue à l'église parce que justement, cette fille me parlait de cette église-là. Donc, par curiosité, je me suis rendue à cette église dimanche parce que je pense que je lui ai parlé, cette fille-là, je lui ai parlé vendredi et dimanche, je me suis rendue à cette église. Puis après la messe, je me suis rendue au confessionnal pour pouvoir, je peux dire, affronter le prêtre. Vraiment. Donc, je suis rentrée à l'intérieur du confessionnal, je lui ai parlé, je lui ai expliqué toutes mes déceptions parce que je ne comprenais rien, je me suis mise à pleurer. Et puis, le prêtre, il m'a écoutée. Ben, je pense avoir passé au moins une heure au confessionnal. Pas une fois, il a regardé sa montre. Il m'a à peine posé quelques questions et en quittant, il m'a dit deux phrases. Et en me parlant, j'ai senti quelque chose me transpercer le cœur. C'est une sensation indescriptible. Une sensation indescriptible. C'est comme, est-ce que je peux dire comme une épée d'amour. Donc, c'est la meilleure façon que je puisse l'expliquer en tant qu'artiste. Une épée d'amour. Ça m'a transpercé le cœur comme ça. Puis, subitement, je me suis mise à pleurer, mais pleurer de joie. Une joie que je ne pouvais plus contenir. Donc, arrivée chez moi et ma fille aînée, elle était là, elle m'a dit, « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es aussi contente? » Puis j'ai dit, « Je viens de vivre une expérience à l'extérieur. » Et puis elle m'a dit, « Ok, mais il faut aller à l'église plus souvent, tu es tellement contente. » Puis mon mari m'a dit, « Mais je pense qu'il va falloir que tu laisses tomber la cuisine aujourd'hui parce que tu dois aller te reposer. » Parce que j'étais dans un état second. J'étais dans un état second et lorsque je me suis couchée, la sensation que j'ai eue, c'était cette même sensation que j'ai expérimentée le jour de mon accouchement. Exactement la même sensation. Je ne reconnaissais plus l'espace où j'étais ni le temps qu'il faisait. Et c'est difficile à expliquer, mais je le dis quand même.
Je l'entends maman... comme une grande lumière. Je l'imagine comme ça quand...
C'est comme...
Quand j'étais... Décris.
Oui. Puis, je me suis... Pendant toute cette soirée, je suis restée dans ma chambre. Alors, je peux dire cette soirée, mais c'est toute la journée parce que je suis retournée chez moi. Il était peut-être déjà midi ou 13 heures. Mais pendant toute l'après-midi et la soirée, donc, j'ai fait le trajet spirituellement de l'époque où j'ai vécu en Haïti, le tremblement de terre, le deuil. J'ai revisité toute ma spiritualité, j'ai revisité d'autres événements de ma vie. On dirait que tout ça prenait un autre sens depuis lors. Parce que je me suis rendu compte que Dieu existait pour vrai. J'ai eu cette conviction. Je n'ai pas de mots clés pour pouvoir l'expliquer, mais c'était comme si quelqu'un était venu me le dire, mais sauf que personne n'est venu me le dire, mais je l'ai senti dans mon cœur. Donc,
c'était une évidence.
C'était devenu une évidence et depuis lors, je me suis mise à chercher, à le chercher, à le découvrir. C'est comme j'avais une soif de savoir qui il était. C'était devenu même comme une obsession parce que j'essayais de comprendre, mais je n'arrivais pas à comprendre. J'aime tellement comprendre et poser des questions, ça m'échappait. Je pouvais juste l'expérimenter. Donc, il y a un avant le tremblement de terre et un après le tremblement de terre. Donc,
Mais je vois cette révélation-là, je pense qu'on peut parler de révélation,
oui.
comme un autre tremblement de terre, mais de l'intérieur.
De l'intérieur, définitivement, de l'intérieur. Et ça m'a transformée et c'est devenu une aventure extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que mes enfants le vivent bien parce que elles sont témoins de certains miracles, de certaines choses, certains changements de ma vie. Comme par exemple, en 2015, j'ai fait une attaque de panique sur une autoroute parce que j'ai vécu pendant longtemps avec une phobie des autoroutes. Eh bien, du jour au lendemain, j'ai été guérie de cela. Pas de thérapie, rien du tout. Donc, elle me voit conduire sur les autoroutes. On part en vacances et je conduis sur les autoroutes. Je suis devenue indépendante. Donc, ça, c'est comme pour elle aussi, elles sont témoins de l'existence de Dieu. Donc, elles savent que ce n'est pas un concept que je vis avec lui. Donc, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de. Donc, de plus en plus, je m'intéresse au domaine de la guérison. Je m'intéresse beaucoup à la guérison intérieure aussi, guérison physique, guérison intérieure. Donc, je fais partie d'un groupe de prière. Donc, ma vie a complètement changé. Complètement changé.
J'ai l'impression, à t'écouter parler, que c'est comme si tu avais découvert une forme de confiance en toi et de confiance, moi je vais utiliser le mot dans l'univers, mais confiance en Dieu,
Oui,
qui fait que
définitivement.
le monde te fait plus peur. Est-ce que c'est correct de dire ça comme ça?
Bon, je ne peux pas dire que le monde me fait plus peur, mais je peux surtout dire que je vis avec Dieu. Parce que pour les émotions, c'est sûr que les émotions, il y a tout le temps un va-et-vient au niveau des émotions, mais au moins, quand tu sais que tu vis avec quelqu'un qui est à côté de toi, en toi et partout où tu es, ça change certaines perspectives. Oui.
On se disait avant qu'on commence à enregistrer l'entrevue, quand on parlait des sujets qu'on souhaitait aborder, que ben, c'est moi qui le disais, c'est pas toi, que le Québec n'est pas une nation particulièrement spirituelle. Il y a toutes sortes de réalités historiques qui sont mêlées à ça. Et je me demande, dans ta vie d'aujourd'hui, au quotidien, de vivre avec cette révélation-là que tu as eue, qui a complètement changé ta vie d'un point de vue spirituel, et de vivre au quotidien dans un monde qui reflète pas ça. Je pense qu'il y a des endroits sur Terre où on a un attachement spirituel, une vie spirituelle qui est peut-être un peu plus présente. Je suis sûre que ces endroits-là sont en voie de disparition à plusieurs égards. Mais le Québec n'en
Oui.
fait pas partie,
Oui.
définitivement, à ce jour-ci. Donc, comment on vit comme ça? Quand il y a peut-être une forme de décalage ou une différence, en tout cas, entre la réalité à l'intérieur de toi puis l'univers, le monde dans lequel
Oui.
tu évolues.
Mais c'est que, comme je fais partie d'un groupe de prière charismatique et le renouveau charismatique catholique est encore présent ici. Donc, j'assiste à des retraites, à des ministères de guérison, Et pendant la pandémie aussi, il y a eu beaucoup de réunions via Zoom. Donc, pendant la pandémie aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont changé de vie grâce à tous ces ministères qui se donnaient et qui se donnent encore en ligne. Parce que beaucoup de personnes, c'est sûr que la pandémie, ça a été une surprise, donc des gens ont perdu leur repère, mais avec ces ministères, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées spirituellement aussi.
Ah oui, puis qu'avant, il n'y avait pas nécessairement le temps ou l'inclinaison de se rendre physiquement dans un lieu
Effectivement,
pour rencontrer leur
effectivement.
foi, mais qu'il y avait davantage d'opportunités de le faire
Oui,
en ligne,
effectivement.
sur Internet. C'est
Oui.
plate à dire, mais
Oui.
c'est un avantage peut-être de la pandémie
Oui,
pour
oui.
plusieurs personnes.
Oui. Mais le fait de faire partie d'un groupe de prière charismatique et puis de côtoyer d'autres personnes qui sont chrétiennes, croyantes comme moi, donc ça aide. Ça aide aussi. Donc, il y
Et
a une
puis...
grande famille chrétienne au Québec, une très, très grande famille chrétienne. C'est sûr que c'est pas facile d'en parler un peu partout, mais de toute façon, il faut respecter la croyance des autres. Mais quand même, il y a une famille chrétienne assez soudée, assez serrée aussi. Oui.
qui existe toujours, hein, qui
Oui.
le cœur ardent est encore là.
Oui.
À beaucoup
Oui.
d'égards.
Oui.
Est-ce qu'il y a un lien entre ce processus-là spirituel que tu as eu et la montée de ta pratique créative?
Oui, il y a un lien. Il y a un lien parce que c'est sûr que, mais chaque personne sur la terre est née avec un don, un charisme. Mais moi, lorsque j'ai commencé à peindre, et un jour, je suis sortie marcher, puis j'ai eu une conversation avec Dieu. À haute voix, s'il vous plaît, pas dans ma tête là, à haute voix. Et depuis lors, j'ai senti que, ah ok, vraiment, je dois rester accroché à mes aptitudes, mes charismes, tout ça, parce que ce n'est pas un hasard que je sois talentueuse. De toute façon, tout le monde l'est. Mais Dieu savait que j'aurais besoin de ça pour pouvoir traverser mon deuil. Il le savait. Donc, depuis lors, même lorsque je peins, je lui demande de m'inspirer. Parfois, je me réveille avec une inspiration. Je me rappelle, l'année passée, j'ai participé à quelque chose, à un musée, le musée afro-canadien à Montréal, je pense. Il fallait qu'on peigne. Nous étions plusieurs artistes. Il fallait qu'on peigne, une toile en lien avec Mandela. J'étais tellement stressée parce qu'il fallait le faire en direct. Alors, nous étions tous au musée. Puis la deuxième journée, mais le premier jour, ça s'est bien passé, mais vers la fin, je me disais, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais continuer cette toile? Et puis, en me réveillant le matin, mais en dormant, j'ai entendu quelqu'un me dire, Baobab. Puis, j'ai dit, ah ok, je vais peindre un baobab. Et puis, voilà. Donc, même lorsque je crée, je demande à Dieu de m'inspirer de nouvelles choses. Donc, c'est ça. Donc, tout est lié. Maintenant, je ne peux plus rien dire sans dire que je n'ai pas été guidée. C'est sûr que je suis têtue, je n'écoute pas souvent, mais je n'écoute pas souvent, mais maintenant, c'est devenu ma réalité que je suis accompagnée.
Parlons de comment cette accompagnement-là va se continuer dans l'avenir. On est dans la quarantaine. J'aime parler d'un milieu de vie. Statistiquement, on en a presque autant devant nous qu'on en a derrière. Donc, comment tu imagines cette deuxième moitié de ta vie?
Ah, deuxième moitié de ma vie. OK, j'aimerais... je souhaite avant tout prendre ma retraite avant 60 ans. J'aimerais bien ça. Alors, je parle... Ça, c'est en lien avec mon emploi de 9 à 5. Et je veux donner encore plus de place à l'art, à ma créativité. Donc, je fais partie d'un collectif depuis, je pense, presque 4 ans. Nous sommes allés au Cameroun. Nous avons représenté le Canada lors de festivals. Donc, tranquillement, je fais des petits pas pour pouvoir donner un peu plus de place à l'art. Donc, par exemple, je cherche des distributeurs qui voudraient bien acheter et mes produits d'artisanat. Je travaille sur mon site web. Donc, je fais tout ce que je dois faire pour m'assurer que d'ici 50 ans, que j'ai plus de place sur le marché par rapport à l'art et l'artisanat.
Et est-ce qu'il y a des nuages, des choses qui t'inquiètent quant à l'avenir, qui pourraient venir contrecarrer tes plans peut-être, ou plus globalement même?
Je pourrais dire... Ce qui m'inquiète, alors, je ne peux pas dire ce qui m'inquiète. Tout ce qui a rapport à la mort, ça m'inquiète. Mon père, il est encore vivant, mais j'avoue que ça m'effraie de le perdre un jour. Oui. Ça, c'est... Je pense que ça, c'est ma plus grande peur.
C'est niaiseux parce que, évidemment, je comprends ça, que j'ai perdu mon père. Un jour, inévitablement, je vais perdre ma mère. Mais qu'est-ce qui fait que ça t'inquiète, que tu as cette crainte-là de la
mais
mort?
Mais c'est quand je pense à la douleur que j'ai éprouvée lors du décès de ma mère. Et je ne veux pas que ça revienne de la même façon. Au fait, je peux dire que... Mais de toute façon, perdre un être cher, ça fait toujours mal. Mais je l'appréhende quand même.
Mmh.
Oui.
Et on n'a pas beaucoup parlé de tes enfants, mais tu as 2 filles... Comment envisages-tu leur avenir? En contraste avec le tien, est-ce que tu vois leur vie à elles se décliner peut-être différemment de ce qui t'est arrivé à toi?
Bon, je sais que je leur mettais un peu de la pression au sujet de leur choix de profession. OK? Mais j'ai arrêté de le faire parce que on ne vit pas dans le même pays. Parce qu'en Haïti, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais ici, les enfants sont guidés, il y a beaucoup de choix, ils peuvent commencer un programme, ils changent d'idée. Ça, je voulais éviter ça. Mais je me suis rendu compte que la culture est différente et puis le système est différent. Il y a beaucoup plus d'accompagnement à comparer à Haïti. Donc là, je me dis que, bon, j'espère qu'elles pourront faire quelque chose qui leur plaît, mais aussi de bien s'informer, de bien se renseigner parce que ici, l'information est disponible. Parce que ce n'est quand même pas intéressant de je peux dire entre guillemets, perdre du temps à essayer, OK, essayer une session, laisser tomber une autre session, changer tout le temps, parce que quand même, on peut dire que c'est du temps perdu.
On fait toujours des découvertes quelconques en chemin, n'est-ce pas? On sait jamais des fois les détours.
Je sais que je dois continuer à travailler là-dessus, mais je leur dis que ici, l'information est disponible. Il faut consulter les conseillers. Il faut poser des questions. Il y a beaucoup d'organismes pour aider les jeunes à faire le bon choix. Oui, on peut toujours essayer d'autres choses, mais changer deux domaines à un autre, comme par exemple, je veux être avocate aujourd'hui, demain, non, je vais être médecin. C'est deux domaines différents. Donc, ça, non seulement c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, mais c'est une perte d'argent aussi.
Ah, c'est sûr, c'est clair. Il y a des coûts
Il y a des
substantiels et
coûts
de
qui sont
plus en plus.
effectivement. Donc, je leur dis souvent de s'informer parce que l'information est disponible. Donc, c'est ça.
Quel héritage souhaites-tu léguer
À mes filles.
à tes filles et à la société en général, je pense à notre communauté, à la communauté dont tu fais partie.
Premièrement, j'aimerais avoir un impact dans la vie des gens que je rencontre, un impact du point de vue spirituel. J'aimerais pouvoir aider les gens de façon émotionnelle, spirituelle, prier pour leur guérison physique, pourquoi pas. Et aussi, par rapport à mes filles, qu'elles comptent toujours sur Dieu et qu'elles soient des filles bien formées qui vont être utiles à la société.
Le plus grand cadeau qu'on peut laisser, c'est peut-être effectivement notre descendance, nos enfants, n'est-ce
Oui,
pas, qui
oui,
vont nous
oui.
survivre. Je t'ai pas posé cette question-là, mais est-ce qu'elles ont suivi dans cette transformation-là spirituelle? Ou est-ce qu'elles pensent que tu es une extraterrestre?
Je pense que non. Je pense que non. Elles ne sont pas pratiquantes, mais je vais te donner un exemple. Si elles se réveillent avec un mal de tête, un mal de ventre, et que je leur dis, OK, je vais prier pour ta guérison, automatiquement, elles vont venir. Elles savent que ça existe, que c'est vrai. Elles le savent. Elles savent que Dieu n'est pas un concept, que c'est du sérieux, c'est du tangible.
Ça fait partie de leur réalité d'aujourd'hui.
Oui, ça fait partie de leur réalité. Même si elles ne pratiquent pas, mais quand je parle, je dis, ah, mais tu sais que Dieu, telle chose, mais elles savent que oui, que lui et Dieu et moi, nous sommes copains et copines là.
Et donc, si on se voit, pour conclure notre conversation, Doris, si on se revoit pour un podcast, là, la soixantaine, où est-ce que je vais te trouver et où vas-tu en être, tu penses?
Je pense que je vais te dire que, Brigitte, j'anime un séminaire sur la guérison intérieure. J'organise une exposition où je suis en train de former actuellement des jeunes au niveau de l'art, de l'artisanat.
Ça semble un super beau projet, puis j'ai hâte de voir ça. Je promets pas qu'il va y avoir une série podcast la soixantaine, mais je vais te chercher, puis on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là.
Oui.
Merci infiniment, Doris, d'avoir partagé avec moi ton histoire, tes origines, tes choix, ta vie et tes espoirs pour l'avenir. Puis je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour les prochaines étapes.
Merci, merci de cette opportunité.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous pour réagir à ce neuvième épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantainebalado.com. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.